d'aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le monde aujourd'hui, au sommaire ce soir. 25 personnes ont été tuées dans deux attaques dans l'est de la République démocratique du Congo. Avec 16 000 cas et 875 décès, le continent africain essaye de se protéger contre la propagation du coronavirus. La pandémie a dépassé les 2 millions de cas dans le monde, dont la moitié en Europe. L'Union africaine juge profondément regrettable la suspension de la contribution des États-Unis à l'OMS. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Dans l'est de la République démocratique du Congo, 25 personnes, dont 2 militaires, ont été tuées par deux groupes armés dans des attaques distinctes. Nathalie Barge.
Deux militaires et un civil ont été tués hier dans des combats avec des ADF dans la province du Nord Kivu, a annoncé l'armée, précisant que 5 rebelles islamistes ont été abattus. Dans la nuit de samedi à dimanche, des miliciens de la CODECO ont attaqué le village de Koli, tuant 22 émas, selon les autorités de la province de l'Ituri, indiquant que la population a fui la localité. Le groupe armé CODECO, très actif dans le territoire de Djougou, est composé de Lendu, essentiellement agriculteurs, qui se disputent les terres avec les Ema, généralement éleveurs et commerçants. Un conflit entre les deux communautés avait fait des dizaines de milliers de morts entre 1999 et 2003. Cette région du nord de l'Ituri a renoué avec les violences qui ont fait des centaines de morts depuis 2017.
Au Tchad, une soixantaine de prisonniers arrêtés durant la récente opération de l'armée tchadienne contre le groupe djihadiste Boko Haram ont été remis aux autorités judiciaires. Djimet Arabi, le ministre de la Justice, a déclaré que les auditions allaient commencer demain jeudi. Ces prisonniers seront jugés par la cour criminelle après leur audition. Dans le nord-ouest du Nigeria, au moins 19 personnes ont été tuées lors de combats interethniques dans l'état de Taraba pour possession d'un lac de pêche. Les affrontements ont opposé les ethnies Chomo et Djolé dans le district de Lo, selon David Missal, porte-parole de la police locale. Une centaine de maisons ont été incendiées et plusieurs personnes ont également été blessées. Le continent africain a franchi ce mercredi la barre des 16 000 cas de Covid-19, dont 875 décès. Nous faisons le point sur les derniers développements sur le continent avec Abdourahman Dia.
Le Sénégal a enregistré ce mercredi 15 nouveaux cas positifs, portant à 314 le nombre de personnes atteintes de coronavirus. 190 sont déclarées guéries et 2 ont perdu la vie. En RDC, qui compte 240 cas confirmés, le coronavirus a frappé dans la famille du président Félix Tshisekedi. Son oncle Gérard Moulumba est décédé du Covid-19. Monseigneur Moulumba, 82 ans, était aussi chef de la maison civile de la présidence. Au Malawi, où l'état d'urgence est en vigueur depuis le 23 mars, le président Mutharika a annoncé que le pays irait en confinement à partir de samedi pour 3 semaines. Tous les pays qui nous entourent sont infectés par le coronavirus et ont perdu des vies. Si nous ne prenons pas garde, le Malawi pourrait perdre jusqu'à 50 000 vies. Il faut agir maintenant, a-t-il déclaré. Selon le dernier bilan officiel, 16 cas de contamination au Covid-19 ont été recensés dans le pays, dont 2 mortels.
En République démocratique du Congo, le pic de la croissance de l'épidémie de coronavirus sera atteint entre la première et la deuxième semaine du mois de mai 2020, estime le comité multisectoriel de la riposte au Covid-19. Si les efforts en cours ne sont pas finalisés à temps, il faudra craindre le pire, ajoute le professeur Jean-Jacques Muyembe. La République démocratique du Congo a enregistré 250 cas confirmés, dont 21 décès et 21 personnes guéries. Au Congo-Brazzaville voisin, où le premier cas de Covid-19 avait été détecté le 14 mars, 43 nouveaux cas ont été enregistrés, portant leur total à 117, dont 11 guéris et 5 décès, a indiqué la ministre de la Santé, Jacqueline Lydia Mikolo. En Afrique du Sud, le gouvernement a annoncé avoir renforcé son arsenal pour traquer les fausses informations qui circulent sur le coronavirus dans les médias et sur les réseaux sociaux. Un système high-tech d'alerte a été mis en place pour permettre de supprimer les infox sur les différentes plateformes et de transmettre les dossiers à la police à des fins d'enquête et de poursuite. Le grand public peut dénoncer les fake news par le biais d'un site internet ou d'un numéro de téléphone gratuit. Au Malawi, l'avocat du président Peter Mutharika a dénoncé aujourd'hui la décision de la Cour constitutionnelle d'annuler sa réélection l'an dernier pour fraude. Très attendu dans un pays en ébullition politique permanente depuis le scrutin de mai dernier, l'audience de l'examen de sa requête en appel s'est ouverte ce matin devant la Cour suprême d'appel de la capitale Lilongwe. L'audience devrait durer 2 semaines malgré la pandémie du coronavirus. À Madagascar, la justice a rejeté les demandes de remise en liberté d'une journaliste critique du président. Directrice de la publication du journal Valizoa, proche du chef de l'opposition, Marc Ravalomanan, Artin Raelizoa avait mis en cause la gestion de la pandémie du coronavirus par le président André Rajoelina. Elle a été inculpée d'incitation à la haine envers le chef de l'État et placée en détention le 4 avril dernier. La MANOUL, la mission d'appui onusienne en Libye, a dénoncé une escalade permanente des violences, dont des actes de représailles dans des villes de l'ouest du pays, conquises par les forces du gouvernement d'Union nationale. La MANUL s'alarme de l'intensification des combats ces derniers jours, faisant des victimes civiles et pouvant entraîner de nouvelles vagues de déplacements.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Plus de 2 millions de cas de coronavirus ont été officiellement déclarés dans le monde, dont la moitié en Europe. Un point sur les dernières évolutions de la pandémie avec Eric Manirakiza.
La pandémie de Covid-19 a déjà emporté plus de 128 000 personnes. Les États-Unis payent le plus lourd tribut, avec plus de 26 000 décès pour plus de 610 000 cas. Viennent ensuite l'Italie avec plus de 21 000 morts, l'Espagne compte près de 19 000 morts, la France recense environ 16 000 morts et le Royaume-Uni enregistre plus de 12 000 morts. L'Allemagne va prolonger au moins jusqu'au 3 mai le confinement. Les écoles ont rouvert dans la moitié des communes au Danemark après un mois de fermeture. Le Royaume est le premier pays européen à rouvrir ses crèches, écoles maternelles et primaires, après l'instauration de restrictions le 12 mars pour endiguer l'épidémie. Tous les établissements devraient être ouverts d'ici le 20 avril. L'Union européenne défend une approche coordonnée pour sortir du confinement indispensable pour lancer l'économie sans mettre en péril la santé des citoyens et annonce une conférence des donateurs pour financer un vaccin. L'Iran a annoncé mercredi moins de 100 décès pour la deuxième journée d'affilée. Le président Hassan Rouhani a annoncé la réouverture des entreprises à faible risque de propagation du virus dans le but de protéger l'économie frappée par les sanctions américaines.
Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a jugé ce mercredi profondément regrettable la décision par les États-Unis de suspendre leur contribution à l'Organisation mondiale de la santé, annoncée hier par le président Donald Trump, le temps d'évaluer l'action de l'OMS face à la pandémie du coronavirus. D'autres réactions avec Jacques Aristide.
Le patron de l'ONU a vivement déploré la décision. Antonio Guterres estime que ce n'est pas le moment de réduire le financement des opérations de l'OMS ou de toute autre institution humanitaire combattant le Covid-19. Le président américain accuse l'OMS de mauvaise gestion et de dissimulation dans cette pandémie partie de Chine à la fin de l'année dernière. Washington, premier bailleur de l'agence onusienne avec plus de 400 millions de dollars par an, déplore en particulier que ses propres mesures face à la crise, notamment la fermeture progressive de ses frontières, aient rencontré une vive résistance de la part de l'OMS qui a continué à s'agir. salué les dirigeants chinois pour leur disposition à partager les informations, d'après Donald Trump. La Chine, qui contribue environ 40 millions de dollars, a également fustigé l'initiative américaine et se dit profondément préoccupée, tout comme l'Allemagne, qui juge que blâmer les autres n'est pas en période de pandémie. Le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell, affirme qu'il n'y a aucune raison pour justifier cette décision à un moment où les efforts de l'OMS sont plus nécessaires que jamais. La Russie, pour sa part, dénonce ce qu'elle appelle l'approche très égoïste des États-Unis.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Nanit Talani.
Le conseil d'administration du FMI a approuvé un appui en faveur du Burkina Faso, du Sénégal, du Niger et du Ghana dans le cadre de sa facilité de crédit rapide pour aider ces pays à contrer l'impact de la pandémie de COVID-19. Le FMI décaissera 1 milliard de dollars pour le Ghana, 442 millions de dollars pour le Sénégal, 115 millions de dollars pour le Burkina Faso et 114 millions de dollars pour le Niger. Cette aide d'urgence permettra aussi à ces pays d'attirer le soutien d'autres partenaires. Les actions du prêteur sud-africain Nedbank ont chuté de plus de 9% à l'ouverture du marché ce mercredi. Elles s'échangeaient à 9,61% contre une baisse de 5,5% de l'indice des banques de la bourse de Johannesburg. Cette baisse intervient un jour après que Nedbank a retiré ses orientations financières pour 2020 et mis en revue certains objectifs clés en raison de la pandémie de coronavirus. Pour terminer, les États-Unis, premier bailleur de l'Organisation mondiale de la santé avec plus de 400 millions de dollars par an, vont suspendre leur contribution en attendant d'évaluer le rôle de l'OMS dans la mauvaise gestion et la dissimulation de la propagation du coronavirus. Le président américain reproche à l'agence onusienne de s'être aligné sur les positions de la Chine que Washington accuse d'avoir initialement caché la gravité du virus lorsqu'il est apparu en décembre. L'ONU affirme que ce n'est pas le moment de réduire le financement de l'OMS qui est absolument essentiel aux efforts du monde pour gagner la guerre contre le COVID-19.
Présenté ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Départ le 29 août de Nice et arrivé le 20 septembre à Paris. Ce sont là les nouvelles dates du Tour de France qui ont été officialisées par l'Union Cycliste Internationale. Le calendrier initial qui prévoyait un grand départ fin juin a été bousculé par le coronavirus. Jamais le Tour de France n'est parti aussi tard dans l'été depuis sa création en 1903. La période de suspension des compétitions internationales est aussi prolongée d'un mois jusqu'au 1er juillet. Par contre, les championnats du monde sont maintenus aux dates fixées du 20 au 27 septembre et le programme des compétitions reste inchangé selon l'UCI. En athlétisme, le Kenyan Daniel Kinyua Wanjiru, vainqueur du marathon de Londres en 2017, est suspendu à titre conservatoire par l'unité d'intégrité de l'athlétisme. Cette instance lui reproche des irrégularités concernant son passeport biologique. La charge retenue contre le marathonien de 27 ans est le recours à une substance interdite. En plus de son succès sur le marathon de Londres, Kinyua s'est classé 8e des mondiaux sur la distance la même année, avant de signer une 5e place sur le marathon de New York en 2018. En football, l'Espérance sportive de Tunis est sortie vainqueur du litige qui l'oppose à la formation ghanéenne de l'Ashanti Kotoko. Le verdict de la FIFA oblige Ashanti Kotoko de verser 240 000 dollars à l'Espérance dans le cadre du transfert d'Emmanuel Clouté. Cette affaire remonte à février 2015 lorsque le joueur ghanéen a quitté le club tunisien pour rejoindre la formation ghanéenne contre l'avis de ses dirigeants. L'Ashanti Kotoko a jusqu'au 10 mai pour payer son dû à l'Espérance. Le club ghanéen a souhaité que les 180 000 dollars montant du transfert de Kwame Bonsou, parti d'Ashanti Kotoko pour l'Espérance l'été dernier, soit déduit de 240 000 dollars. En Europe, Anderlecht a repris les entraînements lundi à la stupéfaction de certains médecins et sous le contrôle des règles sanitaires par la police. Le championnat de Belgique est officieusement terminé sur base d'un avis du conseil d'administration de la Pro League. La décision devrait être entérinée par l'Assemblée générale des clubs le 24 avril. Anderlecht a toutefois opté pour la reprise des entraînements pour les joueurs le souhaitant. Le virologue Mark Van Rans a qualifié cette décision de légale, mais de mauvais signal dans un pays où le confinement reste la règle dans le contexte de la crise du Covid-19.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, place au dossier du jour. Les autorités nigérianes ont prolongé le confinement de 2 semaines supplémentaires. Il y a désormais 373 cas de Covid-19 confirmés. Les Nigérians commencent à craindre que la prolongation ne donne pas les résultats attendus si elle n'est pas correctement gérée par le gouvernement. Reportage de notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba.
Abuja et autres grandes villes comme Lagos, la capitale économique, et Ogun vont rester encore confinés pendant 2 autres semaines. Face à cette mesure, plusieurs milliers de Nigérians ont eu des réactions mitigées après l'annonce de la prolongation faite par le président Muhammadu Buhari.
La décision, c'est pour le bien-être de tout le monde. Mais les familles souffrent. Il n'y a pas à manger. Les parents ne travaillent pas. Je crois que le gouvernement a beaucoup de choses à faire. Premièrement, de savoir combien précisément ils doivent aider. D'avoir une liste compréhensive des vulnérables et des familles qui doivent être assistées.
Lorsque les gens ont faim, ils n'auront peur de rien. Et vous dites confinement, les gens vont sortir lorsqu'ils auront faim. Donc je ne crois pas que le confinement sera respecté. Selon le président Buhari, les 2 dernières semaines de confinement qui ont commencé le 30 mars ont permis de retrouver au moins 91% de toutes les personnes qui ont eu des contacts avec les patients testés positifs au Covid-19. Cependant, le président s'inquiète du fait que malgré des efforts déployés, le nombre de cas confirmés continue de grimper et qu'il était nécessaire de prolonger le confinement. Les experts approuvent la mesure malgré ses conséquences sur la population. Odlim Umbebara est économiste. Je pense que le prolongement du confinement est nécessaire pour nous permettre de réduire les cas d'infection du Covid-19. Ça, c'est important. Parce que si on n'arrête pas la propagation, on pourrait avoir une résurgence de la maladie. Une autre mesure du gouvernement est le transfert d'argent à quelques 3 millions de foyers considérés pauvres à travers le pays. Les organisations de la société civile mettent en cause le fichier utilisé par les autorités fédérales pour effectuer les transferts d'argent. Pour ces ONG, ces fichiers ne reflètent pas la réalité sur le terrain. Deji Adeyanzu est activiste. Il n'y a pas de preuves pour montrer que le gouvernement distribue de l'argent. L'argent a juste été distribué à un groupe de personnes qui a été réuni par le ministre des Affaires humanitaires. Et cet argent dont on parle est autre moyen pour détourner de l'argent. Vous voyez combien de fois les gens ont faim dans le pays et combien de personnes veulent de l'argent. Dans le nord du pays, composé de 19 États, certains gouverneurs ne partagent pas l'idée de confinement et craignent le coût élevé que cela pourrait avoir dans leurs états. Pour le président Muhammadu Buhari, la restriction des mouvements, la pratique de la distanciation sociale sont les seuls moyens pour stopper la propagation du coronavirus. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Retour ce soir sur la décision du président américain de mettre fin au financement de son pays à l'Organisation mondiale de la santé. Cette décision qui tombe au beau milieu de la pandémie est décriée à travers le monde. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, évoque une décision profondément regrettable. Un avis que partage le docteur Moumini Niaone, spécialiste en santé sociale et coordonnateur du comité des volontaires contre le Covid-19 au Burkina Faso. Il a été joint à Ouagadougou par Bagassi Koura.
Ça aura des conséquences terribles sur la réponse et même sur comment la santé mondiale est gérée. Je pense que les conséquences de cette décision, si elle passait, sont très graves pour le monde. au vu de l'immense contribution que les États-Unis font au financement de l'Organisation mondiale de la santé.
Et quel aspect, par exemple, pourrait être touché avec cette décision-là?
Alors, c'est surtout l'aspect technique. Vous savez, l'Organisation mondiale de la santé a des experts et des techniciens qui aident tous les pays à la réponse. Et actuellement, vous prenez le cas du Burkina Faso, les acteurs de l'Organisation mondiale de la santé sont là, ils aident l'équipe au niveau national à la réponse, à la définition de la stratégie, et les financements vont certainement, le manque de financement pour la suite vont impacter négativement la réponse, et la maladie ne pourrait que continuer à s'étendre, malheureusement.
Comment est-ce que les pays pourraient s'organiser pour éviter que cette décision soit beaucoup plus catastrophique?
Alors, moi je pense que déjà au niveau africain, si par exemple l'Union africaine doit prendre plus les choses en main, et au niveau par exemple régional, les mécanismes de financement au niveau régional doivent justement se mettre debout, et les gens doivent s'associer déjà pour voir comment ils vont trouver des mécanismes innovants du financement de nos systèmes de santé, et non pas se baser et compter uniquement sur certains pays. Mais j'espère que les mécanismes américains et leur système administratif vont mettre en place des choses qui pourront convaincre Donald Trump de revenir sur sa décision qui est très très grave.
Oui, une décision très grave. Il dit que l'OMS n'a pas été assez transparente. Est-ce que vous comprenez cet argument?
C'est difficile de se baser sur cet argument parce que, en effet, le monde même a été surpris par rapport à coronavirus. Effectivement, on entend des gens dire que la Chine n'a pas communiqué assez, mais moi, je n'ai particulièrement pas de preuves pour avancer dans ce sens. Mais si lui, il accuse l'Organisation mondiale de la santé, on voit déjà CDC qui est très, très technique, qui a beaucoup de compétences. Malgré tout, les États-Unis rencontrent beaucoup de difficultés. Ils devraient voir le problème dans son ensemble et non pas chercher un bouc émissaire. Je pense qu'il est juste à la recherche d'un bouc émissaire.
C'était le docteur Moumini Niaone, spécialiste en santé sociale et coordonnateur du comité des volontaires contre le Covid-19 au Burkina Faso. Il a été joint à Ouagadougou.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Quand les États-Unis vont-ils retourner à la vie normale? Avec les infections au Covid-19 qui culminent dans le pays, les politiciens, économistes et médecins discutent de la possibilité, dans les semaines à venir, pour les gens de quitter leur maison et retourner au travail ou à l'école. Les dirigeants se disputent déjà qui a le pouvoir de prendre une telle décision. Des éléments de réponse avec Patsy Ouida-Koussouara, correspondante de la VOA, la Maison Blanche. Le récit est de Lionel Gaïma.
Le film « Le révolté du Bounty » de 1935 raconte une mutinerie de l'équipage du navire contre la gestion de leur capitaine. Dans un tweet mardi, le président Donald Trump a fait savoir que c'était l'un de ses films préférés, surtout parce que les mutins ont besoin de leur capitaine malgré leur mécontentement. Il faisait allusion à un groupe de gouverneurs démocrates qui veulent décider collectivement quand ils vont rouvrir leurs états. Andrew Cuomo, gouverneur de l'état de New York.
Le président est clairement préparé au combat sur la question. Mais la pire chose que nous pourrions faire, c'est de commencer par la division politique.
Andrew Cuomo et d'autres gouverneurs travaillent pour développer une stratégie d'assouplissement progressif des restrictions dans leurs États. Le président Donald Trump estime que la décision ne leur appartient pas et qu'il a une autorité totale sur le sujet.
Je vais vous le dire très simplement. Le président des États-Unis a le pouvoir de faire ce que le président des États-Unis a le pouvoir de faire, qui est très puissant.
La déclaration de Trump a déclenché une tempête entre certains États et l'autorité fédérale en cas d'urgence nationale. Adam White est un spécialiste de la Constitution à l'American Enterprise Institute.
À première vue, ce que le président Trump a dit est tout simplement faux.
Il n'y a aucune sorte d'autorité pour le président, même en cas d'urgence, pour lui donner l'autorité totale de faire ce qu'il veut.
Les gouverneurs sont revenus à la charge, notamment Gretchen Whitmer du Michigan.
Il n'y a personne qui peut appuyer sur un bouton et revenir à la vie normale, sauf que dans cet environnement, il n'y a pas de bouton.
Malgré les désaccords sur qui peut ordonner le retour progressif à la normale, le virus imposera sa propre trajectoire d'après le plus haut responsable de Trump en matière de santé, le docteur Anthony Fauci.
Je pense que la façon dont vous rouvrirez, si vous voulez utiliser ce mot, l'économie dans ces communautés dépendra beaucoup de la capacité de contenir ce que nous savons qui va se passer. Je vous garantis, une fois que vous commencerez à reculer, il y aura des infections. C'est la façon dont vous gérez l'infection qui va compter.
Monsieur Trump envisage d'ouvrir certaines parties du pays dès le 1er mai. Mais pour le docteur Fauci, c'est peut-être trop optimiste.
États américains ont prolongé la fermeture des écoles jusqu'à la fin de l'année scolaire à cause du coronavirus. Des millions d'enfants travaillent chez eux via Internet. Certaines académies fournissent des ordinateurs aux élèves issus de familles à faible revenu. Pour savoir comment le corps enseignant gère la situation, Nathalie Barge a joint Radia Iadadene, professeure de français dans un lycée de Virginie, où les étudiants travaillent à distance depuis un mois.
C'est pas pratique pour tout le monde parce que la majorité des étudiants n'ont pas accès à Internet et aux outils technologiques. Mais là, avec le nouveau plan qu'ils ont mis en place, donc à partir de la semaine prochaine, normalement, tout le monde doit avoir un ordinateur. Donc, ils vont être distribués à tous les étudiants. Donc, ça va aider ces étudiants à continuer leurs cours le plus normalement possible.
Alors justement, qu'en est-il des cours actuellement? Est-ce que vous suivez un cursus normal, habituel, ou est-ce qu'il a été modifié?
Oh, bien sûr. Donc le cursus, bien sûr, a été modifié. Donc ça va pas être pareil que le cursus quand on est vraiment dans une classe. Donc ça a été simplifié donc pour aider ces étudiants à continuer leurs cours. Mais en restant dans le curriculum, bien sûr, donc on va pas enseigner de nouvelles leçons, donc on va faire juste des révisions pour ce qui a été déjà enseigné aux étudiants.
Alors, est-ce qu'il va y avoir des interrogations écrites?
Non, pas d'interrogations écrites et pas de notes. Donc, tout ce qui a été fait bien avant, donc dans les trois semestres qui ont été accomplis, vont être la note totale pour ces étudiants. Donc, il y aura des étudiants, bien sûr, qui peuvent améliorer leurs notes avec les révisions qu'on va faire là pour l'instant.
Donc, vous prenez en compte le travail qui a été effectué jusqu'à présent pour le passage en classe supérieure?
Oui.
Et pour ce qui est de l'examen de fin de lycée, hein, en l'occurrence pour votre école, le baccalauréat international, comment cela va-t-il se passer?
Donc pour le baccalauréat international, donc ça dépendra des écoles. Donc pour notre lycée, donc on a pu faire le baccalauréat international pour l'oral. Mais en ce qui concerne l'examen écrit et l'écoute ainsi que la lecture, ils ont été annulés. Donc ils ne vont pas faire ces examens pour la fin de l'année. Donc ils auront juste la note de l'examen oral.
Mais ils pourront à partir de cela aller au collège ou à l'université?
Oui, bien sûr. Oui.
Alors qu'est-ce que cette expérience nous enseigne hein, jusqu'ici? Est-ce que cela peut présenter quelque chose notamment de positif? Par exemple, plus de bavardage en classe?
Oui, c'est vrai, il n'y a plus de bavardage en classe, mais je pense que l'essentiel, c'est de faire de cette période un moment profitable pour nos connaissances, mais aussi profitable pour les liens qu'on est en train de construire, de reconstruire avec nos familles, donc les relations entre les parents et les professeurs, ainsi que les relations professeurs-élèves, c'est des relations qui nous ont manqué pour longtemps. Je pense que toutes ces relations vont se fortifier à l'occasion de cette crise.
Radia Iadaden, professeure de français à Manassas, dans l'État de Virginie. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Joselle Morissin, Michel Joseph, Lionel Gaïma et Georges Léonard Sagno. Au micro, Claire Moragibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h/24, un seul site internet, voafrique.com bien sûr, sans oublier nos pages Facebook, Twitter et Instagram. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. We'll be right back.